Le FMI propose à la RDC des solutions pour revaloriser la monnaie nationale face aux devises. Au cours d'un séminaire ce vendredi à Kinshasa, le Fonds monétaire international a relevé notamment la stabilité macroéconomique pour réussir le processus de dédollarisation. Et puis la DGI n'a pas atteint ses assignations de 2013. Le ministre des Finances, qui le dit, propose particulièrement à cette régie financière de lutter contre la fraude fiscale afin d'atteindre les assignations budgétaires 2014. Elle a une également les 248 millions de dollars américains de la Banque mondiale et la coopération britannique pour la construction et la réhabilitation des routes en RDC. Ce financement, qui entre dans le cadre du projet ProRoute, offre des marchés aux petites et moyennes entreprises. Bonsoir à tous. Dollarisation partielle et politique monétaire, cas du Pérou. Ce thème était au centre du séminaire organisé ce vendredi à Kinshasa par le ministère de l'économie et commerce avec la collaboration du Fonds monétaire international. Au cours de cette rencontre, Oscar Melado, représentant pays du FMI, a indiqué que la stabilité macroéconomique et des institutions fortes constituent des préalables dans les processus de dédollarisation. Paul Matendo a assisté à cette rencontre.
C'était un échange d'expériences entre le Pérou et la République démocratique du Congo en matière de dollarisation. Selon Oscar Melado, beaucoup de similitudes existent en effet entre les deux pays. À en croire Oscar Melado, les phénomènes de dollarisation tirent la même origine dans les économies péruviennes et congolaises. Il s'agit du déséquilibre macroéconomique et monétaire, ce qui a déclenché l'hyperinflation dans ces deux pays. Le numéro 1 du FMI en République démocratique du Congo suggère que le Congo-Kinshasa se dote des institutions fortes pour gagner les paris de la dédollarisation.
Le dossier préalable, je dirais que est d'avoir des institutions fortes, particulièrement les banques centrales.
De son côté, le ministre de l'économie et commerce retient que l'expérience péruvienne devra être mise à profit pour sortir la RDC de ces phénomènes. Jean-Paul Nimoyato.
C'est un échange qui me paraît très fructueux parce que nous avons pris bonne note de l'expérience du Pérou et donc ça nous permettra de réajuster les tirs.
D'autres rencontres sont envisagées entre les deux parties pour approfondir l'expérience. L'expérience du Pérou qui s'est tirée presque à 70% du phénomène de dollarisation a ajouté Jean-Paul Nimoyato.
Et la Banque centrale du Congo justement a décidé de maintenir le taux directeur à 2%. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de politique monétaire tenue vendredi dernier ici à Kinshasa. Selon Deo Gracias Mutombo, gouverneur de la BCC et président du CPM, cette décision tient compte de l'évolution de la croissance économique en RDC. Paul Matendo nous en parle.
Il s'observe une accalmie sur les différents marchés en République démocratique du Congo, a relevé le gouverneur de la Banque centrale du Congo, président du comité des politiques monétaires. À en croire Deo Gracias Mutombo, il y a une stabilité au niveau général des prix sur les marchés des biens et services depuis le début de l'année 2014. Au niveau du marché d'échange, la situation est demeurée également stable, a souligné le gouverneur de la BCC. Au 31 janvier 2014, a-t-il ajouté, le cours indicatif est stable par rapport à fin décembre 2013. Un dynamisme est noté depuis janvier 2014 dans les transactions sur les facilités pertinentes en ce qui concerne les marchés monétaires. Pour Deo Gracias Mutombo, l'économie congolaise poursuivra son sentier de croissance en 2014. La croissance économique attendue pour cette année est de 8,7% contre une réalisation de 8,5% a poursuivi les présidents du CPM.
La Banque centrale garde certes le taux directeur à 2%, mais que veut dire en clair ce concept auto-directeur, Berry Franklin Luchaka.
Les taux directeurs sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par la banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire et qui permettent à celle-ci de réguler l'activité économique. Il existe trois taux directeurs qui peuvent prendre des noms différents en fonction des pays et cela du plus faible au plus élevé. Il y a le taux de rémunération des dépôts, le taux de refinancement ou taux REFI et le taux d'escompte ou taux du prêt marginal. Le taux directeur de la Banque centrale du Congo est le taux de refinancement minimum. C'est le principal outil dont dispose la BCC pour influer sur l'octroi de crédit et moduler l'inflation au pays. Cet instrument, utilisé lors des opérations hebdomadaires de refinancement par la Banque centrale du Congo pour alimenter les banques en liquidité, est le véritable baromètre du coût du crédit dans le pays. Les banques qui veulent se refinancer à court terme peuvent le faire en payant un intérêt sur la somme qu'elles empruntent auprès de la Banque centrale. Cet intérêt est calculé d'après le taux en cours à la BCC et si ce taux d'intérêt est fort, les banques vont limiter leur crédit, sachant que le refinancement leur sera coûteux. Elles auront le comportement inverse si ce taux d'intérêt est faible. Les banques récupèrent ensuite, en principe, ce loyer sur les intérêts des crédits qu'elles accordent à leurs propres clients. Plus le taux de la BCC est bas, plus le coût du crédit a des chances d'être bon marché, ce qui, en théorie, favorise la croissance. Selon le rapport du dernier comité de politique monétaire, à ce jour, la Banque centrale du Congo maintient son taux d'intérêt à 2%.
L'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre la fraude fiscale et l'acquisition d'un système informatique performant, voilà des propositions du ministre des Finances à la Direction générale des impôts. Patrice Kitevi qui s'exprimait ainsi samedi dernier lors de la clôture du séminaire des directeurs des impôts estime que ces pistes de solutions permettront à la DGI d'atteindre ses assignations budgétaires 2014, contrairement à l'exercice 2013. Patrice Kitevi au micro de Paul Matendo.
Ensemble, nous devons également contrecarrer la persistance de la fraude fiscale et de la corruption à grande échelle qui sévit avec la complicité de certains agents des impôts dans la plupart des cas. Nous devons également nous engager à corriger le faible rendement fiscal dans la perception de tous les impôts engendrant une mobilisation insuffisante de recettes au niveau global. Nous devons lancer très rapidement avec l'appui de l'Institut national de la statistique une campagne d'élargissement de l'assiette fiscale, corriger la faiblesse du système informatique caractérisé par une certaine fragmentation des bases de données et par l'absence d'un système intégré de gestion de l'impôt. Nous devons lutter de manière âpre contre les tracasseries sans pareil, conduisant à une sécurisation insuffisante des opérateurs économiques et des contentieux parfois non fondés.
Je rappelle que la DGI est appelée à mobiliser des recettes de l'ordre de près de 2 milliards de francs congolais pour l'année fiscale 2014. En province orientale, le gouvernement provincial a remis à 7 territoires du district du Haut-Ouélé un lot d'outils aératoires pour la réhabilitation des routes. L'objectif est d'entretenir la voirie à Isiro, mais aussi des routes de desserte agricole, une initiative saluée par les communautés locales. Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique prévient que les taux de croissance de la population africaine pourraient provoquer une sérieuse concurrence dans la quête des ressources telles que l'énergie, l'eau et la nourriture. Ceci si les décideurs politiques et les scientifiques n'accordent pas l'attention voulue au changement climatique. Carlos Lopez, qui s'exprimait ce lundi au sommet de Delhi sur le développement durable 2014 en Inde, estime également qu'avec une croissance moyenne du PIB qui devrait atteindre les 6% cette année, l'Afrique est susceptible de dépasser les records de croissance de l'Asie en 2050.
Écho d'économie.
La cellule infrastructure du ministère des ITPR s'active à promouvoir le secteur privé de la construction routière. Dans le cadre du projet ProRoute, cette cellule a présenté aux petites et moyennes entreprises les marchés potentiels pour la construction des routes d'intérêt public en province. Ce projet du gouvernement est appuyé par la Banque mondiale et la coopération britannique à hauteur de 248 millions de dollars américains. Pour connaître l'importance de cet appui aux PME dans la construction des routes du pays, je vous propose d'écouter le coordonnateur de la cellule infrastructure aux ITPR. Théophile Tella est au micro de François Kadima.
Mais les travaux routiers doivent être exécutés pas seulement par la régie, c'est-à-dire les entités du secteur public qui sont l'office de route et l'OVD, mais aussi par les secteurs privés parce que le développement c'est d'abord les secteurs privés. Donc nous travaillons dans le cadre de ce programme pour que notre pays puisse avoir un tissu de PME qui soit performant, qui soit capable de pouvoir suivre l'ensemble des travaux qui sont mis sur le marché par l'État et par tous les partenaires qui nous accompagnent dans notre développement. Le projet ProRoute comprend deux principaux bailleurs qui sont la coopération britannique et la Banque mondiale, mais la République elle-même aussi participe dans ce programme. Et dans ce programme, nous avons un financement initial qui porte sur 123 millions de dollars et le financement additionnel porte sur 125 millions. Le projet a démarré en 2008 et il va être exécuté jusqu'en 2016.
L'écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une émission supervisée par Nicole Ngaka, mise en onde par Jean-Claude Siala et suivie par vous. Merci.